Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous et ravi comme chaque soir de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Avec ce soir un invité exceptionnel à 18h20, il nous réserve sa première prise de parole depuis son départ du gouvernement. Il est aujourd'hui en charge de la task force antiterroriste de l'Élysée. Laurent Nouniez est notre invité à 18h20. L'état de la menace terroriste, comment les services surveillent-ils les revenants de Syrie et d'Irak? Il nous répondra. Les violences contre les élus locaux, le gouvernement annonce de nouvelles mesures censées les protéger. On en parle avec les grandes voix à 18h30. Et puis entre 19h et 20h, le club des idées d'Europe Soir, c'est votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change, débattre, réfléchir et prendre le temps de se faire son opinion. Ce soir, notre alimentation en question. Peut-on manger français sans se ruiner et pour sauver aussi nos agriculteurs? C'est l'un des grands sujets des prochaines années. Autosuffisance alimentaire, alors prêt à consommer français et à quel prix surtout? Le débat à 19h20 avec nos invités. Mais d'abord le journal avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Aujourd'hui, je pense intensément à mes amis qui ne sont plus là, pour que vous, vous puissiez l'être. N'ayons pas peur, ni du terrorisme, ni de la liberté.
N'ayons pas peur, les mots de Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo à l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. 14 accusés, 11 sont présents face à des victimes qui espèrent obtenir des réponses à leurs questions.
Il est 18h bien sûr, quand des chercheurs spécialisés sur le cancer s'intéressent au Covid et font considérablement avancer la recherche.
Ils ont trouvé, figurez-vous, un moyen de repérer à l'avance les personnes susceptibles de développer des formes grave de la maladie, et ça pourrait tout changer.
La mort de celui que l'on surnommait Duch, il était le chef du plus redoutable centre de détention sous le régime des Khmers Rouges au Cambodge.
Retour dans ce journal sur le profil de ce bourreau méthodique et zélé. Le Tour de France, le Belge Wout van Aert remporte la 5e étape. Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 1,90% à 5031 points.
Et puis la tendance météo avec vous Anissa, nuageux dans le Nord-Ouest.
Oui, effectivement, demain de la Bretagne aux Hauts-de-France, le temps sera très agité. Ailleurs, c'est du soleil et des températures en hausse avant un pic de chaleur en fin de semaine. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
5 ans après l'électrochoc des sanglantes attaques de janvier 2015, c'est dans une atmosphère très lourde que s'est donc ouvert aujourd'hui le procès des attentats djihadistes contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère aussi, contre des policiers et contre le supermarché de Vincennes.
17 morts en 3 jours, 14 accusés, 11 sont présents. Vous avez assisté à cette première journée, Chloé Triomphe, des accusés que beaucoup, y compris les victimes et familles des victimes, ont découvert aujourd'hui pour la première fois.
Et oui, parce que finalement, eh bien, les hommes qui sont dans le box, ils sont accusés d'avoir aidé les terroristes en amont des attaques. Et pour les survivants ou les proches, eh bien, c'est la première fois qu'ils voient leurs visages, des visages qui n'ont jamais fait le tour des journaux comme ceux des Kouachi ou d'Amédi Coulibaly. Et quand je vous dis des visages, ce sont en réalité des hauts de visage, car ils sont masqués comme tout le monde dans la salle, les magistrats, les avocats, le public, les parties civiles. En fait, des accusés, on a vu que leur arrivée menotte au poignet dans le dos, leur stature et très brièvement leur façon de parler pour décliner leur identité. Quant aux parties civiles, elles ne sont pas si nombreuses aujourd'hui. Certaines ne viendront que le jour de leur audition. Le procès dure 2 mois et demi. Et puis, à cause du nombre de personnes, à cause du Covid-19 aussi, il y a 5 salles d'audience, une principale et des liaisons de retransmission en direct. Tout est un peu dilué, y compris l'émotion par ce dispositif très particulier. Mais ça n'empêche pas les victimes d'avoir une réaction, un ressenti face aux accusés. C'est le cas de Lassana Abatili, le magasinier de l'hypercachère.
Pour moi, déjà, c'est dur de les regarder parce que la personne qui a apporté des soutiens des terroristes et les tireurs, pour moi, j'ai mis tous dans le même panier. Quoi. Ils sont disparus.
On a perdu des proches. On veut vraiment que la justice soit faite. C'est la seule chose qu'on attend.
Alors cet après-midi, le procès n'entre pas encore véritablement dans les débats. Il faut d'abord en passer par plusieurs heures de lecture par le président et son assesseur d'un résumé des faits. Et dans le box, les accusés semblent écoutés sans émotion particulière, tandis qu'au fond d'une des salles, eh bien, la mère de Charb, journaliste de Charlie Hebdo, quitte la salle. Le président vient de se tromper de prénom en citant son fils.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 qui suit pour nous donc ce procès qui va durer de longues semaines.
Maître Richard Malka est l'avocat historique de Charlie Hebdo. Cabu, Charb, Tignous, Volinsky, il les a défendus tous des dizaines de fois. Et aujourd'hui, plus que jamais, il plaide pour cette liberté qui était et qui reste la patte de Charlie.
Aujourd'hui, je pense intensément à mes amis qui ne sont plus là, qui ne sont plus là pour que vous, vous puissiez l'être, pour que vous, vous puissiez continuer normalement à informer sans avoir peur des dogmes, des idéologies, et que Charlie Hebdo, c'est ça. N'ayons pas peur, ni du terrorisme, ni de la liberté.
Maître Richard Malka au micro européen de Justin Morin.
Quant aux familles des victimes, dont certaines étaient présentes dès aujourd'hui, elles ont beaucoup de questions auxquelles elles espèrent des réponses.
Oui, comme Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur de Charlie Hebdo, qui estime qu'il y a encore, malgré la longue enquête, des zones de flou.
Je sais que ce procès n'apportera pas de réponse à mes questions. Moi, je voudrais. Je dis qu'il y a une sorte d'omerta sur ce sujet-là. La chose la plus importante, c'était le lever de la surveillance de Charlie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Pourquoi occulte-t-on la vérité sur cette levée de surveillance? Moi, ça me hante. Peut-être que je souffrirais moins si vraiment j'avais des réponses à ces questions.
Maryse Wolinski, qui était l'invitée de Patrick Cohen à la mi-journée sur Europe 1.
18h05, la suite de votre journal, Isabelle Millet. Dans l'actualité ce soir également, une épine dans le pied des défenseurs du port du masque.
Oui, parce que la justice retoque en partie l'arrêté qui impose le port du masque à Strasbourg et dans les autres villes du Bas-Rhin de plus de 10 000 habitants. Le tribunal administratif estime que cet arrêté porte atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la liberté des personnes. Il demande donc à la préfecture de revoir sa copie. Et c'est une décision qui pourrait faire jurisprudence. On y reviendra dans votre journal de 19h.
Ont-ils suffisamment bien porté leur masque? En tout cas, c'est confirmé. Trois joueurs du PSG dépistés positifs au Covid.
Oui, d'après nos confrères de l'équipe, il s'agirait de Neymar, de Di Maria et de Paredes. Ils étaient ensemble, oui, non,
pas,
certainement pas. Ils étaient ensemble donc à Ibiza après leur finale de Ligue des Champions. Le PSG, qui on le rappelle, est censé affronter Lens le 10 septembre. Match qui pourrait, on verra ça, être remis en cause si un quatrième cas était détecté chez les joueurs.
On dit que les plus grandes découvertes, Isabelle, se font souvent par hasard. La pénicilline, la poudre à canon par exemple, ou encore les rayons X, et même de façon plus anecdotique, la tarte tatin.
Eh bien, figurez-vous qu'une fois encore, le hasard a peut-être bien fait les choses, puisque des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy, qui travaillaient sur les cancers pédiatriques, ont mis le doigt sur une protéine qui pourrait avoir un rôle capital dans l'évolution du Covid. Racontez-nous ça, Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1.
Oui, eh bien, c'est l'histoire d'un détournement qui a bien tourné. Au printemps dernier, en pleine crise sanitaire, des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy ont eu l'idée d'utiliser leur machine Dernier Cri pour analyser des échantillons sanguins de malades du Covid. En temps normal, cette machine baptisée Aurora leur permet, grâce à des rayons laser, de déterminer la carte d'identité des cellules cancéreuses. Mais là, elle leur a permis de faire un constat sans appel, explique Aymeric Sylvain, qui a dirigé les travaux. Les malades qui évoluent vers une forme grave du Covid ont dans le sang des globules blancs tout à fait particuliers.
Et ce qui se passe dans le cadre de la Covid-19 chez des personnes qui font une forme grave, c'est que ces fameux globules blancs, bah, ils n'avaient pas le temps de mûrir dans la moelle osseuse. Donc c'était des fruits qui n'étaient pas mûris, qui se retrouvaient dans le sang.
Autre constat, ces malades ont aussi dans le sang une quantité trop élevée de calprotectine, une protéine inflammatoire. Alors la bonne nouvelle, c'est que cela ouvre la voie à un éventuel test pour prévoir les formes graves du Covid, car on sait repérer ces anomalies dans le sang avec des machines moins sophistiquées que celles de Gustave Roussy. Un essai clinique incluant un millier de personnes a d'ailleurs été lancé à l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Et on espère que vous nous tiendrez au courant. Merci Anne Le Gall.
Bien sûr.
L'économie avec la main tendue d'Antoine Frérot à Bertrand Camus. Le PDG de Veolia invite le directeur général de Suez à discuter, mais ça n'est pas gagné.
Oui, puisque dans une lettre aux salariés aujourd'hui, le directeur général de Suez juge particulièrement hostile cette offre de rachat. Sachez que demain matin, à 8h15 sur Europe 1, Antoine Frérot, le patron de Veolia, donc sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard.
Et bien sûr, l'actu, c'est sur Europe 1 que ça se passe. Les agressions contre des élus, les maires en particulier, se sont multipliées ces derniers mois. Europe 1 s'en est régulièrement fait l'écho.
Et cette violence contre les élus était au cœur aujourd'hui d'une réunion interministérielle à Matignon. Une série de mesures destinées à renforcer les conséquences pénales de ce type d'agression devraient être mises en place.
Et on en parlera tout à l'heure avec les grandes voix, 18h30. Le ministre de la Justice a déjà annoncé que les insultes contre les maires seraient désormais considérées comme des outrages, ce qui, contrairement à l'injure, permet la mise en œuvre de travaux d'intérêt général.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite du journal d'Isabelle Millet à 18h10, la disparition de l'homme qui était au cœur de la machine à tuer Khmer Rouge dans les années 70 au Cambodge.
Condamné à la perpétuité pour crime contre l'humanité, surnommé Dutch, il vient de mourir à 77 ans. Rémi Botsaron, il était le responsable du tristement célèbre camp de la mort, le S21.
Oui, un camp de détention installé en 1976 dans la capitale du Cambodge et où 15 000 personnes ont été torturées et exécutées en 3 ans. Dutch est alors le grand ordonnateur de la torture. C'est cet homme au visage émacié, aux yeux perçants, ancien professeur de mathématiques, met en place méticuleusement différentes méthodes pour arracher des aveux dont la signature envoie à la mort. Il note tout scrupuleusement, le moindre détail de cette machine de mort, un terme que l'on doit au cinéaste franco-cambodgien Ritsi Pan. Interrogé il y a quelques années sur Europe 1, il décrivait le rôle d'idéologue de Dutch dans cette prison.
Il orientait les façons d'interroger, il dosait la torture. Parfois, il écrit en rouge, torturé moyennement. C'est lui le formateur, c'est lui qui transforme les garçons qui sont des jeunes gens, paysans, pris de leur famille, déracinés, en super gardien qui a le pouvoir de la vie et de la mort sur les êtres humains.
En 1979, quand le régime est renversé, Dutch prend d'abord le maquis, puis s'éloigne des Khmers rouges, travaille même pour des ONG qui viennent en aide aux populations déplacées et finit par vivre caché, reconnu en 1999 par un photographe. Il est arrêté, emprisonné et finalement jugé en 2009 par le tribunal international de La Haye. Devant la cour, il reconnaît d'abord sa responsabilité, puis change de stratégie. Soudainement, il exige sa libération lors du dernier jour du procès. Une vaine stratégie puisqu'il est condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité, torture et meurtre. Des crimes décrits par lui-même dans des archives de la prison S21. Autant de preuves qu'il n'avait pas pris soin de faire disparaître.
Merci Rémi Bostaran. Et on vous conseille la lecture du Portail, le roman de François Bizot qui a été prisonnier justement de Dutch et qui a très bien connu celui qui fut donc l'un des plus grands bourreaux du XXe siècle.
Absolument. Cette fois, Berlin est formel. Les examens médicaux pratiqués sur l'opposant russe, Alexei Navalny, apportent la preuve sans équivoque qu'il a bien été victime d'un empoisonnement.
Empoisonné par un agent neurotoxique, le Novitchok. Et ça n'est pas anodin car le Novitchok désigne une famille de neurotoxiques russes. C'est une substance qui avait été utilisée d'ailleurs pour empoisonner déjà un ancien espion russe et sa fille en 2018.
Conséquence logique, l'Allemagne demande à la Russie des éclaircissements urgents.
Et on va prendre comme promis des nouvelles du Tour de France. On vous retrouve en direct Marguerite Lefèvre avec cette dernière minute très importante Marguerite puisqu'on apprend que Alaphilippe perd son maillot jaune. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est l'information de cette fin d'étape. Le Français Julien Alaphilippe, qui était porteur du maillot jaune ce matin et qui a terminé l'étape dans le temps du vainqueur, eh bien Alaphilippe perd son maillot. Il est sanctionné pour avoir récupéré un bidon dans les derniers kilomètres de l'étape. C'est un ravitaillement sauvage qui est interdit par les commissaires. 20 secondes de pénalité donc pour le Français qui rétrograde au classement général. Il est désormais à 16 secondes du nouveau maillot jaune, le Britannique Adam Yates. Nouveau maillot jaune donc à l'issue de cette cinquième étape remportée tout à l'heure au sprint par le Belge Wout van Aert. Il remporte sa deuxième victoire d'étape individuelle sur le Tour de France. C'est la deuxième victoire d'affilée aussi pour son équipe, la Jumbo-Visma, après le succès de Primoz Roglic hier. Équipe décidément impressionnante. Voilà pour cette étape de transition. Avant de réattaquer la montagne, demain, ce sera une nouvelle arrivée au sommet, arrivée en haut du Mont Aigoual. On sera dans le Gard. La montée est classée première catégorie et elle pourrait de nouveau modifier sensiblement le classement général.
Et c'est donc l'info de la soirée. Julien Alaphilippe sanctionné qui perd son maillot jaune. Merci Marguerite Lefèvre sur la route du Tour pour Europe 1.
C'était le Point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci Isabelle Millon, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 19h. La météo avec vous Anissa. Le nord-ouest est donc sous les nuages demain.
Oui,
et le sud, et le sud alors
au sud, tout va bien Julien, effectivement. Alors ça concerne principalement la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Si vous nous écoutez dans l'une de ces régions ce soir, bien sachez que demain vous allez vous réveiller avec un ciel très couvert, des nuages très épais avec des averses et le vent d'ouest qui souffle sur les littoraux. Donc c'est vraiment une journée agitée. Dans l'après-midi, le temps reste gris sur les côtes du nord-ouest et en Corse, les averses se développent sur les reliefs. Partout ailleurs, le soleil s'impose, il brille. Au nord de la Seine, nous aurons quelques passages nuageux. Mais alors partout ailleurs, c'est vraiment l'été qui se poursuit. Dans la vallée du Rhône, le Mistral reste sensible à 40 km/h. Alors les températures, demain elles sont stationnaires. Le matin, avec 4 degrés au Puy-en-Velay, elles sont même frais. 6 à Clermont-Ferrand, 8 à Saint-Étienne, 14 à Paris et jusqu'à 18 degrés à Nice. Et au meilleur de la journée, nous allons avoir des températures qui vont gagner quelques degrés. Écoutez bien, 23 à Belfort, 25 à Nice, 26 à Nantes et Toulon, 28 pour Paris et Biarritz demain après-midi.
Combien vous avez dit là ?
28 à
28,
Paris.
Ah ouais, oui.
On ressort les t-shirts,
ah
hein,
oui,
Julien.
Absolument.
29 à Bordeaux, 30 à Nîmes. Et alors vendredi, grâce au vent qui nous arrive d'Espagne et du Maroc, nous allons vivre un véritable pic de chaleur avec des ressentis de près de 40 degrés dans le sud de la France.
Ce week-end ?
Vendredi.
Vendredi ?
Ouais.
Ah oui. Bon, très bien.
Dès dimanche, ça se calme.
On en parle demain.
Va pas falloir s'habituer.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h20, sa parole est rare. Il ne s'est pas exprimé depuis son départ du gouvernement. Il est aujourd'hui en charge de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Bonsoir Laurent Nouniez.
Bonsoir.
Merci de nous accorder votre première interview. D'abord un mot peut-être personnel sur ce procès qui débute aujourd'hui. Vous étiez en poste, je crois, à la préfecture de police de Paris au moment des attaques. C'est une émotion particulière pour vous aujourd'hui ?
Oui, forcément, c'est une émotion particulière parce que j'étais numéro 2 de la préfecture de police de Paris au moment des attaques et avec le préfet de police, ou l'autorité bien sûr du gouvernement de l'époque, nous avions eu à gérer la traque des auteurs de ces terribles attentats. Ça a été 4-5 jours, puisque ça s'est terminé avec la manifestation du dimanche 11 janvier, qu'il a fallu aussi gérer.
C'est vrai.
Ça a été une période extrêmement intense et en émotion, bien sûr, mais aussi on a pu avoir et apprécier le professionnalisme, évidemment, des forces de sécurité intérieure.
En quelques mots, Laurent Nougnès, quelles sont, comme ça, là, les images qui vous reviennent de ces moments terribles ?
Les images, c'est bien sûr quand on apprend l'attaque. Hein, nous sommes en réunion, je m'en rappellerai évidemment de toute ma vie. Nous sommes en réunion et nous apprenons qu'il y a eu des coups de feu à Charlie Hebdo, qu'il y a des personnes tuées. Et ensuite, évidemment, c'est l'action qui se met en place immédiatement. Mais c'est un moment assez dur. Et puis en même temps, le moment du dimanche 11 janvier, quand même, qui restera gravé dans beaucoup de mémoires, un moment de grand œcuménisme national, et on a vu ce qu'était la nation française et ce qu'elle était capable de faire dans ces moments-là.
Alors, je profite de votre présence, évidemment, pour évoquer l'enquête. Trois accusés sont toujours recherchés et font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les frères Belloucine et la compagne de l'époque de Koulibaly, Ayad Boumediene, ont dit qu'elle serait toujours en vie, peut-être au Yémen. Est-ce que, Laurent Nougnès, vous pouvez le confirmer ?
Je ne confirme pas cette information. Il y a des investigations judiciaires en cours. Vous comprendrez que je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus.
Bien.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui comparaissent à partir d'aujourd'hui, qui ont probablement sont rendus coupables d'actes de complicité. La justice va faire son travail et ces personnes vont être jugées.
Combien de ressortissants français aujourd'hui dans la nature sur le sol irako-syrien ?
Écoutez, c'est un chiffre que je ne peux pas donner. On sait que 1400 personnes sont parties en Irak, en Syrie. Comme vous le savez,
on arrive à les suivre.
Beaucoup sont morts, mais il y en a qui, certains sont détenus sur zone, en Syrie notamment, également en Irak. Et les services de renseignement français, avec des partenaires étrangers, suivent évidemment l'ensemble des objectifs qui sont sur zone. C'est la force du travail du renseignement français avec tous les partenaires internationaux d'être en mesure de suivre beaucoup d'individus.
On arrive à les tracer pour avoir des alertes qui sonnent si jamais ils repassent les frontières et qu'ils reviennent sur le sol national en France. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé à une époque des revenants, c'est-à-dire ces djihadistes embrigadés qui sont allés sur le terrain se former et qui reviennent discrètement en France.
Mais bien sûr, toute l'action qui a été menée depuis 2015, action qui a été renforcée dans le cadre de la politique régalienne forte qu'a souhaité mettre en œuvre le président de la République à partir de 2017, toute cette politique vise à faire en sorte que tous les services travaillent mieux ensemble, échangent des informations, y compris sur des individus qui sont sur zone, de manière à pouvoir détecter leur retour. Et ce travail, il se fait entre tous les services de renseignement français, intérieur comme extérieur, mais aussi avec nos partenaires étrangers. Et donc ce travail fort qui est mené depuis 2015, renforcé singulièrement en 2017, comme l'a souhaité le président de la République, il permet aujourd'hui d'avoir une politique efficace de coopération qui permet de déjouer de nombreux attentats et d'interpeller de nombreux individus.
Alors, Laurent Nougnès, autre élément d'inquiétude, c'est ce qu'on appelle les sortants. Il y a les revenants et puis il y a les sortants d'ici 2 ans. C'est 250 condamnés pour terrorisme islamiste qui seront libérés. On sait que les services de renseignement ne peuvent pas, par définition, être derrière chaque individu 24 heures sur 24. Comment vous pouvez nous assurer à nos compatriotes qu'ils seront surveillés et qu'il n'y aura pas de passage à l'acte ?
Alors, le ministre de l'Intérieur a rappelé il y a 48 heures encore la Direction générale de la Sécurité intérieure, qui est une direction que j'ai eu l'honneur aussi de diriger, qui est chef de file en matière de lutte antiterroriste. Il a rappelé que les sorties de prison étaient vraiment une priorité. Et je vous confirme que, alors nous n'avons pas 250 sorties qui sont prévues dans les 2 ans qui viennent, c'est 45 cette année, une soixantaine l'année prochaine, en 2021, et l'ensemble de ces individus
et
en
2022, c'est pour ça que
des individus qui sont détenus pour des faits de terrorisme, qui sont suivis et qui, à leur sortie, suivis en milieu pénitentiaire, vous savez que nous avons créé un service national du renseignement pénitentiaire qui suit ces individus, évalue leur dangerosité. Et il y a une unité permanente avant chaque sortie qui se réunit et qui décide de modalités de suivi de ces individus. Et pour répondre très clairement à votre question, il n'y a pas de sortie sèche de détention. Il y aura toujours des suivis en renseignement qui seront mis en place, qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Je suis obligé d'être discret sur les formes de ces surveillances, mais il faut vraiment que les Français se rassurent. Et je m'en assure en tant que coordonnateur national. Nous assurons un suivi de l'ensemble des personnes qui sortent de détention, qui ont été condamnées pour terrorisme.
Quelques questions précises d'actualité. Je vous demande une réponse autant que faire se peut précise. Vous avez été secrétaire d'État, vous connaissez la politique, vous avez une parole importante. Est-ce que vous êtes favorable à une sorte de rétention de sûreté pour les individus les plus dangereux ?
écoutez, il existe un dispositif qui a été voté dans le cadre d'une loi d'octobre 2017, dans le cadre de cette politique régalienne qui est mise en œuvre par le président de la République, mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur, qui, cette loi, permet d'assurer des mesures de police administrative, de surveillance administrative. C'est-à-dire qu'un individu, quand on considère qu'il est dangereux et qu'on ne peut pas le judiciariser, on ne peut pas l'incarcérer, oui. on peut lui imposer un certain nombre d'obligations, comme celle d'aller pointer régulièrement au commissariat ou à la gendarmerie, comme celle de ne pas quitter un certain périmètre, et qui sont des mesures qui ont un effet en matière administrative qui a le même effet que la mesure de rétention ou de sûreté.
Vous avez été numéro 2 du ministère de l'Intérieur, secrétaire d'État, avec Christophe Castaner. Il y a un débat aujourd'hui qui monte en France et qui oppose deux ministres, le ministre Darmanin et le ministre Dupond-Moretti, sur la question de l'ensauvagement. Votre point de vue, Laurent Nunez, y a-t-il ensauvagement de la société ?
Vous l'avez vous-même rappelé, je ne suis plus membre du gouvernement, je suis fonctionnaire, donc je suis astreint à certaines réserves. Mais j'ai bien écouté, j'ai bien entendu.
Vous connaissez bien la réalité du terrain. Vous avez été patron de la DGSI, vous avez été en poste à l'Intérieur.
Exactement, oui. J'ai bien entendu ce qu'a dit le Premier ministre, je m'en référerai à ses propos. Il y a une montée d'un certain nombre de violences dans notre société, notamment ce qu'on appelle les violences gratuites, notamment les coups et blessures volontaires. Et ce qui importe, c'est effectivement de mettre en œuvre des politiques et une action résolue pour lutter contre ces violences. Et c'est ce qui est fait depuis 2017 de manière résolue.
Une question peut-être plus personnelle, si vous me le permettez, pour terminer. Comment avez-vous vécu justement votre sortie du gouvernement ? Il se murmurait que vous faisiez partie des favoris pour prendre la suite de Christophe Castaner à l'Intérieur. Est-ce que vous avez vécu ça comme une forme de déception ?
Non, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai été haut fonctionnaire avant d'entrer au gouvernement. J'ai eu l'honneur d'être le président de la République, m'a proposé d'entrer au gouvernement. Le Premier ministre de l'époque m'a également accordé sa confiance. Christophe Castaner également, comme ministre de l'Intérieur. Ça a été pour moi un grand honneur, un grand plaisir de servir mon pays à ce niveau-là. Et je continue auprès du président de la République, comme coordonnateur national en renseignement à la lutte antiterroriste, à m'occuper de la sécurité des Français et à m'inscrire dans cet axe fort qu'est la politique du gouvernement, du président, qui est la politique régalienne.
Vous avez du mal à dormir la nuit quand vous pensez à ce qui s'est passé il y a 5 ans et aux dangers qui pourraient guetter demain les Français ?
On est surtout très vigilant, on est surtout très concentré. Je crois que ce que je dis là vaut pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure, des services de renseignement, des services de police judiciaire aussi, qui ont fait un travail remarquable qui permet que le procès puisse s'ouvrir aujourd'hui des auteurs des attentats donc de Charlie et de l'hypercacher. Voilà, donc on est surtout très vigilant et concentré pour que tout le monde travaille ensemble pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.
Plus que jamais ce soir, Laurent Nunez, vous êtes Charlie, comme le Premier ministre Jean Castex l'a tweeté.
Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup aimé ce tweet et nous sommes beaucoup dans ce pays à être Charlie, ce qui est un état d'esprit, qui est celui qui consiste d'abord à être attaché à la liberté d'expression.
Merci Laurent Nunez.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, l'heure du rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et Julien Alaphilippe qui perd son maillot jaune. Le Français sanctionné pour un ravitaillement non autorisé dans le final de la 5e étape du Tour de France. Il écope de 20 secondes de pénalité. Une étape remportée par le Belge Wout van Aert. La décision provoque la colère des ONG et des écolos. Le gouvernement va autoriser l'utilisation des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. Ce puissant insecticide, pourtant interdit il y a 2 ans, est dangereux pour les abeilles. Le projet de loi prévoit que seuls les cultivateurs de betteraves sucrières pourront l'utiliser. Après Donald Trump, c'est Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, qui se rendra demain à Kenosha, théâtre d'émeutes dans la foulée de l'affaire Jacob Blake. Google et Apple vont intégrer directement dans leur smartphone la solution de traçage des contacts pour suivre au mieux la progression du Covid-19, ce qui élimine ainsi le besoin de concevoir et de télécharger une application dédiée. Et puis Neymar, positif au Covid-19. Le Brésilien fait partie des 3 joueurs du PSG avec Di Maria et Paredes à avoir contracté le virus. Sans doute à Ibiza.
N'allez pas à Ibiza, c'est ce que j'allais dire. Merci Isabelle. La tendance météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Voilà, et ça s'améliore demain, ensoleillé et plus chaud, presque partout, Anissa.
C'est presque Ibiza sur toute la France demain. Le soleil est bien présent sur l'ensemble du pays. C'est au nord-ouest, vous insistiez sur presque, Julien, et bien c'est au nord-ouest que le temps est le plus agité demain, avec en Normandie, en Bretagne et sur les frontières belges demain, des nuages très épais, des averses et du vent sur les côtes de la Manche et les côtes de la mer du Nord. Sur les reliefs de l'Est, des Alpes, des Vosges même, jusqu'en Corse, là nous aurons des petites averses.
averses orageuses en altitude. Le Mistral reste sensible dans le sud et les températures 8 à 12 degrés à l'est demain matin, 10 à 15 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 20 degrés en début de journée au bord de la Méditerranée.
Bien, revenez à 19h avec des bonnes nouvelles
avec
encore, Anissa. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h31 dans Europe Soir, place maintenant comme chaque soir au débat des grandes voix avec à mes côtés en studio Catherine Ney. Bonsoir. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir.
Bonsoir messieurs. Insulter un maire sera donc désormais considéré comme un outrage. C'est l'annonce faite ce matin par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui fait décidément beaucoup parler, suite à la forte hausse des violences contre les élus. Chaque agression commise contre un maire, dit-il, est une agression commise contre la République.
L'injure, qui est souvent la qualification retenue, ne permet pas la mise en œuvre des TIG. La qualification d'outrage le permet. Et nous allons donc suggérer au parquet de retenir cette qualification, car un maire qui est insulté, c'est un maire qui est, au sens du droit pénal, un maire outragé. Voilà un tout petit détail, c'est simple, c'est pragmatique, c'est efficace et ça va bien sûr dans le bon sens.
C'est une mesure de bon sens, Catherine Ney, comme le dit Éric Dupond-Moretti ?
Oui, c'est, en tous les cas, en convoquant cette réunion, Jean Castex a voulu montrer que le sentiment d'insécurité dans certaines villes se fondait sur, il y a eu 200 cas d'injures qui étaient en fait des ouvrages, des cassages de gueule de maire, et que ça ne peut plus durer, ce qu'a reconnu le monsieur Dupond-Moretti, parce que voilà, il va falloir changer les termes de la loi, parce que jusqu'ici, injure, ça se termine par quoi ? Soit par un classement sans suite,
oui.
Soit par un rappel à la loi. Alors
oui.
Donc, c'est impunité totale.
Et l'outrage disent... permet la mise en œuvre de voilà. TIG, c'est-à-dire voilà. de travaux d'intérêt général.
De travaux d'intérêt général. Et voilà. Mais tout ça, est-ce que les procureurs vont suivre ? C'est une question que se posent les maires et qui est importante aussi.
Alors, les chiffres de ces violences, c'est bien de les rappeler contre les élus. Elles progressent, oui, ça c'est sûr. Selon l'Association des maires de France, 233 maires ont été agressés entre janvier et juillet. En 2019, on en avait comptabilisé 383 contre 361 en 2018. Donc, on voit que ça progresse assez nettement. Gérard Carrérou, là aussi, c'est une mesure de bon sens et une réponse nécessaire après la polémique de ces derniers jours.
Oui, écoutez, c'est une très bonne mesure même, parce qu'on ne peut pas laisser les élus, et les maires notamment, qui sont au contact, parce que dans les petites villes, dans les villages, dans les bourgs, évidemment, tout le monde sait où est le maire, où est sa maison, et si les gens peuvent impunément aller non seulement le traiter de tous les noms, mais éventuellement lui balancer un coup de poing dans la figure, ou le mettre à terre, comme on a vu un certain nombre de cas. Donc, qui est ce délit, c'est très bien. J'approuve, permettez-moi d'approuver hautement... Oui. Monsieur Dupond-Moretti, simplement je me dis avec un petit peu de... Ah, je vais être un tout petit peu sarcastique. S'il n'y avait pas eu redoublement de ces violences à l'égard des élus, il n'y aurait pas eu effectivement de mesures.
Vous voulez dire que c'est un signal politique quand vous
aussi
le Premier ministre et le ministre de la Justice ?
Oui, c'est un signal politique, parce qu'on ne peut pas dire à la fois que l'insécurité, c'est simplement un sentiment, un ressenti d'insécurité, et là, on s'attaque à quelque chose qui est bien réel. Ce sont des violences, et des violences verbales ou physiques bien réelles.
Mais justement, sanctionner les violences verbales, est-ce que ça peut être dissuasif quand on voit le nombre d'agressions physiques ? Charles Villeneuve.
Vous faites bien, Julien, de dire physique, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2019, un maire a été tué justement pour un déversement d'ordures sur le périmètre de sa commune et que le concitoyen, l'administré...
Jean-Mathieu Michel, c'était le maire de Signes dans le Var.
De voilà. Signes dans le Var, tout à fait. Mais vous savez, il y a eu une disposition, on n'en parle pas du tout, notamment le ministre de la Justice, mais déjà le 27 janvier 2019, les pouvoirs de police, les compétences de police des maires ont été élargies, notamment sur le plan des amendes, et de manière assez importante. Un déversement maintenant de simple ordure vaut 500 euros d'amende. C'est passé, si vous voulez, de 200 euros à 500 euros. Et de la même manière, certains usagers, notamment qui manquent de civisme, qui n'utilisent pas la décharge municipale, seront eux aussi taxés de manière assez sévère. Et même ceux qui ne taillent pas, si vous voulez, notamment convenablement et réglementairement leur haie.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au-delà des sanctions contre les outrages, ce qui sera qualifié demain d'outrage, il y a une prise de conscience peut-être verticale de l'État, du sommet de l'État, de l'isolement des maires face à ces problèmes de violence et à ces mesures de respect de l'ordre public dans les villes et dans les villages. Je voudrais qu'on écoute pour matérialiser ce que peut représenter cette violence pour un maire, le maire de Chalifert. Il était sur notre antenne, il a été agressé fin août, il s'appelle Laurent Simon et il nous a raconté ce qui lui est arrivé.
Moi, c'est ma 13e année de mandat. Je ne pensais pas que ça arriverait. Ça me choque même parce qu'on est à plus de 200 agressions depuis le mois de janvier sur des maires en France. Il y a un moment, il va falloir que les réponses soient fermes. Sinon, ça s'amplifiera.
Qu'est-ce qui fait qu'un père de famille ou qu'un groupe de jeunes dans un petit village, dans une commune, s'en prennent au maire, comme le monsieur se raconte?
C'est la montée de l'individualisme forcené dans notre pays. Avant, on n'osait pas, parce que le maire, c'était une notabilité quand même. D'abord, il était l'élu, on l'avait élu, même si on avait voté contre lui. C'était un homme ou une femme qui avait été élu dans la commune. Il y avait quand même du respect pour un élu. Et on disait d'ailleurs, les maires, oui, bah, c'est important, c'est parmi ceux qui sont encore acceptés par les gens comme une autorité. Ben, non, maintenant, c'est plus vrai. Dès qu'on a le moindre problème, enfin, dès que, malheureusement, certains ont le moindre problème ou quelque chose ne leur plaît pas, de la même manière que ça se passe aussi avec les enseignants. Hein. C'est quelque part dans cette montée générale. Les enseignants, quand les parents ne sont pas contents de ce qu'a fait un prof à leur fils, ils vont lui casser la gueule à la récré, si j'ose dire.
Catherine Ney, c'est vrai que jusqu'à présent, les maires avaient la sympathie de l'opinion publique. On disait que les maires, c'était les élus préférés des Français.
Mais ils sont toujours les élus préférés des Français. Mais seulement, dans une ville, il y a des gens qui sont exaspérés parce que... Pourquoi ? Parce qu'ils ont des frustrations, parce qu'ils ont des problèmes. Et vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'étalement...
Donc c'est le symptôme d'une crise sociale, c'est ça ce que vous dites ?
C'est sûrement le symptôme d'une crise sociale et du fait qu'aujourd'hui, on s'épanche sur les réseaux sociaux, que la violence y règne en permanence, qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et donc, ça se traduit aussi par des actes. On est exaspéré, on va lui casser la figure. C'est comme ça. C'est vrai, c'est l'ensauvagement de la société. Alors, les gens ont toutes leurs raisons. Ils sont fatigués, ils ont des problèmes.
Vous remettez une pièce, là.
Voilà. Comment ?
Non, parce qu'on en a beaucoup parlé hier avec les grandes voix de l'ensauvagement. C'est un clin d'œil avec un peu de malice.
Oui, moi, j'ajouterais, si vous voulez, qu'il faut savoir que de tous les élus, les maires sont en prise directe avec le terrain. Et ça rejoint ce que vient de dire d'ailleurs Catherine Ney ou Gérard. C'est-à-dire qu'ils pâtissent de la dureté, du durcissement des relations sociales et de la montée d'une puissante colère, indéniablement. Et vous avez donc une collision avec ce phénomène et une perte de légitimité de la représentation politique des maires qui connaissent comme les policiers, comme les gendarmes, comme tous les uniformes.
Et même les pompiers maintenant qui
sont
caillassés
dans certains quartiers. Toutes les professions en uniforme. Une forme de défi permanent face à l'autorité. Bien. Et vous avez ce résultat-là.
La défiance des maires et la réponse de l'exécutif, on continue d'en parler juste après la pause, 18h39, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix ce soir en direct, 18h41 dans le studio d'Europe Soir. On est avec Catherine Ney, on est avec Charles Villeneuve et on est avec Gérard Carrérou. Et ce soir, on s'intéresse à la violence, cette violence qui monte envers les élus et cette réponse du gouvernement et notamment du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui annonce un nouveau délit d'outrage contre les insultes faites aux maires. Alors, est-ce que cette réponse sera suffisante ? Eh bien, on en parle ce soir avec les grandes voix. On évoquait juste avant la pause cette défiance de l'autorité de l'État qui entoure aussi maintenant la figure des élus. Écoutez par exemple le maire d'Hiverdroite de Poissy, Carl Olive, ce qu'il dit sur la question, c'est assez intéressant.
Quand on commence à banaliser la violence, les insultes, les attaques envers les élus de France, on fragilise pas seulement les maires, CQFD, on abîme tout simplement la République et on fragilise notre pays.
Voilà, on abîme la République, Catherine Ney, dit ce monsieur. C'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Chaque agression commise contre un maire est une agression commise contre la République. Est-ce qu'on assiste d'une certaine manière à une défiance de l'autorité qui est en train de s'installer en France ?
Oui, il y a une défiance de l'autorité et surtout, on a l'impression que lorsqu'il y a des violences, comme par exemple au moment des Gilets jaunes, où il y a eu vraiment des violences qui ont fait peur à tout le monde... Eh bien, il n'y a aucun suivi. Il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont arrêtés. Et lorsqu'ils, et certains l'ont été, même été jugés, et lorsqu'ils le sont, et qu'ils ont quelquefois des peines, des amendes très lourdes, il n'y a aucune publicité. Donc les gens s'imaginent qu'il y a comme ça, que la justice n'agit pas, quelquefois à tort, parce qu'elle agit. mais souvent qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, ça donne aux gens l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et laisser libre cours à leur colère.
Charles Villeneuve, qu'est-ce que vous ressentez aussi, vous, peut-être à titre personnel, quand vous voyez ce père de famille qui agresse le maire il y a encore quelques semaines devant son portail pour une histoire de voisinage, pour une histoire de problème de voisinage et de place de parking?
Mais avant, si vous voulez, ça se limitait toujours pratiquement aux violences verbales. Là, on est passé à un autre stade, aux violences physiques. Il faut dire les choses. Ce n'est pas un sentiment, mais une réalité physique. Nos concitoyens sont plus durs à administrer qu'il y a 10 ans. Justement, je parlais, nous connaissons ici très bien Carl Olive, qui est un ancien journaliste, qui est maire de Poissy, qui vient d'intervenir. La parole du maire, la parole du curé, la parole du gendarme, la parole du député, avant, était, si vous voulez... c'est vrai, entouré de quelque chose de sacré, plein d'autorité. Eh bien, ça, c'était avant. Les choses ont beaucoup changé sur ce point-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et les structures, au fond, qu'est-ce qu'il y avait qui encadrait une société dans une petite ville de 2-3 000 habitants?
Le service militaire, vous allez me dire?
Non, pas du tout. Non. Je veux dire les structures, ce qui structure une société. Oui. Ben, il y avait le curé. Il avait sa communauté, il y avait les gens qui allaient à la messe, etc. Oui. Ces gens-là, ils n'allaient pas aller taper le maire dans sa mairie, même si c'était un maire de gauche et qu'ils étaient de droite. Et c'était la même chose pour les policiers, les gendarmes, etc. Toutes ces structures qu'encadrait la société, on les connaissait.
Oui.
Les gens les connaissaient.
Mais
il y avait les partis politiques.
Ce que vous dites, c'est vrai avant 68, mais pas après 68. Mais
même après, ça a perduré quand même largement.
Dans les petites villes, largement. Pour ceux d'entre nous qui ont habité des petites villes,
c'est mon
ça a perduré longtemps.
Oui, mais parce que la première structure qui marchait, c'était la famille. Or, aujourd'hui, avec la famille, dans beaucoup, et maintenant, c'est vrai dans les milieux urbains, c'est vrai encore plus en banlieue, mais ça devient de plus en plus vrai dans les petites villes. Il y a des familles éclatées, des familles monoparentales, et une perte de l'autorité, y compris familiale. Or, l'autorité première, comment l'éducation des enfants, elle commence dans les familles et ensuite à l'école.
Alors j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'on ne peut pas dire que dans une famille monoparentale, il y a forcément un manque d'autorité.
Non, mais c'est plus difficile.
C'est plus difficile. Je voudrais qu'on termine par, peut-être sur ce thème, par une question plus politique. Est-ce qu'il y a derrière ces annonces aujourd'hui un petit jeu en somme politique? On sait que les maires des villes moyennes sont plutôt à droite. Bruno Retailleau s'était d'ailleurs vanté d'avoir conservé 60% des villes de plus de 9000 habitants le soir du second tour des municipales. Est-ce que derrière ces annonces, il y a l'ambition du gouvernement de dire hey, les maires, regardez, on est là nous aussi et on travaille pour vous.
Mais bien sûr, vous savez, en ce moment, tout ce qui se passe, nous sommes à 20 mois d'une élection présidentielle. Tout ce qui se passe véritablement en termes de discours du gouvernemental ou de l'opposition, c'est pareil aussi pour l'opposition, c'est politique. Là, effectivement, quand on dit l'autorité, c'est le mot. Je pense que c'est un des thèmes principaux de la prochaine campagne, l'autorité. L'autorité de l'État, l'autorité de la République et de tous ceux qui l'incarnent. Les uniformes, de tous ceux que vous avez cités.
On va revenir à la campagne de 2007.
Mais peut-être bien, parce qu'il y a effectivement... En plus, il me semble peut-être que la Covid a accentué un petit peu les gens... Il y a une peur diffuse de la maladie. Les gens sont à fleur de peau.
Alors
la crise économique qui s'annonce. On est un peu à fleur de peau. Il y a une crainte à fleur de peau. Et ça nourrit les violences.
Alors, on va continuer à parler politique dans quelques secondes. 18h46, Charles Villeneuve. Vous aurez la parole dans un instant. On parle de politique avec notamment François Bayrou. Ben oui, figurez-vous qu'il va faire son grand retour. Il va être, a priori, intronisé demain à ce poste stratégique pour la France. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix à 18h49 dans Europe Soir, avec à mes côtés Catherine Ney ce soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et cette question à présent, Emmanuel Macron peut-il se passer de François Bayrou? Le maire de Pau devrait être intronisé haut commissaire au plan demain au Conseil des ministres, écarté du gouvernement en juin 2017 en raison des affaires des assistants du Modem au Parlement européen. Revoilà donc le docteur Bayrou. Alors le haut commissaire au plan, qu'est-ce que c'est? Ça a été institué en 1946 sous la présidence de De Gaulle, disparu en 1993, et ça a permis de moderniser, dit-on, la France, les trains, le TGV, voilà, tout un tas de choses, Catherine Ney, qui ont servi à changer la France.
Les plans calculs, enfin, il y a eu tout un tas de choses comme ça, qu'on suivait de loin, je dois dire, comme journaliste, parce qu'on trouvait ça un peu barbant, mais c'était sûrement très utile, il faut dire la vérité, c'était très utile pour les gouvernants, et en tous les cas, on pensait qu'il y avait des gens qui réfléchissaient. Et pourquoi ça s'est arrêté en 92? Parce qu'à partir du moment...
Jean Monnet qui a été le
premier, oui,
le premier
qui restait 5 ans. Hein, qui restait 5 ans. Bon, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation de l'Europe, est-ce qu'on peut faire un plan? C'était un plan de développement de la France. Donc, oui. D'ailleurs, ce qu'il va pouvoir avoir comme perspective et ce qu'il peut faire. Et surtout, que peut-il faire en 500 jours?
Oui, alors on dit le plan de relance, c'est Bercy. Et mais puis, la prospective, ce sera maintenant le docteur François Bayrou. Alors, Charles Villeneuve, est-ce que c'est un poste stratégique ou est-ce que c'est un poste purement politique, pour dire les choses?
Alors, c'est un poste politico-stratégique.
Ça, c'est une réponse énorme. Débat,
parce que c'est tout sauf un lot de consolation. Je crois quand même que c'est nécessaire de réfléchir à l'avenir de l'économie française compte tenu de la crise sanitaire.
Oui.
Et là-dessus, il aura du boulot. Et c'est vrai qu'il a quand même quelques qualités, Bayrou, si vous voulez. D'abord, c'est une sorte de promotion.
Il a fait élire le président de la République, d'une certaine manière.
Voilà, c'est une promotion. Et en même temps, pour lui, c'est une promotion au goût de revanche. Il ne faut pas l'oublier. Il a quand même quelques prévisions, il en a faites, qui sont assez réussies. C'est vrai. Ce plan-là, il a quand même des visions.
N'oublions pas la campagne de 2007. Utilité. 2007, il est le troisième homme. 18,5% en 2007. Alors, il baisse après en 2012, 9,13%. Mais il a un poids politique aussi.
Il est le kingmaker, comme on dit.
Il
est le kingmaker.
J'adore l'expression.
C'est le jour, en février 2017, le jour où il a annoncé. D'abord, faut rappeler en deux mots, il était pour Juppé. Il souhaitait que Juppé soit le candidat de la droite. Il avait dit « je me rallie à Juppé », etc. Juppé, paf, n'est plus candidat de la droite, ça devient Fillon. Et du coup, il se trouve... Alors, deux choix pour lui. Ou il se présente, ou alors il se rallie. Et il voit que s'il se présente, il ne sera pas au deuxième tour. Du coup, il se rallie à Macron et il lui apporte les 7, 8, 10% de voix qui font que Macron... Qui était dans la zone des 15%, franchit la barre des 20 et chevauche.
Mais personne ne l'a vu venir. Non. En réalité, c'était dans le cadre de réunions secrètes avec Gérard Collomb.
Au
Sénat, a été préparé. Et c'est vrai qu'il a été d'un apport essentiel à la réussite des ambitions d'Emmanuel Macron.
Alors avant d'écouter Catherine Ney, juste avant de vous écouter Catherine, avec un petit peu de malice, je voudrais qu'on écoute Nicolas Hulot, à qui on a posé la question. Tiens, François Bayrou, à quoi va-t-il servir? Voici sa réponse.
Moi, j'attends avec beaucoup de curiosité le rôle du commissaire au plan, François Bayrou. Parce qu'il faut de la méthode. Il faut savoir effectivement les secteurs qu'on va pouvoir développer, les secteurs qu'il va falloir modérer, voire faire disparaître. Mais pour ça, il faut s'inscrire dans le temps, il faut avoir de la prévisibilité, il faut avoir de la progressivité.
Voilà, alors si on lit le sous-texte, il est en train de dire, Nicolas Hulot, que c'est un titre honorifique, certes avec des moyens, mais surtout politique, Catherine Ney.
Mais oui, puis le président Macron avait une dette envers lui, parce qu'il l'avait nommé, garde des Sceaux, mais il est resté un mois à peine... avant de démissionner parce qu'il a été et puis bientôt mis en examen, donc c'était quand même dur. Mais il lui a aussi donné dans la corbeille de mariage des investitures et il a maintenant un groupe parlementaire qui a quand même ramené pas mal de beurre dans les finances de son parti qui était exsangue.
Et puis il y a des ministres de son modem. Il y a Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires.
Oui, Marc Fesneau qui devait être promu, qui ne l'a pas été. Enfin. Là, question ministre, il n'a pas été très bien
députés,
servi.
Il y a 50 députés quand même, qui sont très utiles à une majorité qui s'est un peu...
Donc il faut le conserver.
Attendez.
Là où je trouve que Nicolas Hulot n'est pas complet, comme souvent, c'est que François Bayrou a toujours tenu, depuis le début du quinquennat, un rôle occulte de conseiller politique auprès d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que, en certaines circonstances, Emmanuel Macron, par rapport, si vous voulez, au témoignage même de ceux qui travaillent avec le président... de la République depuis le début, Emmanuel Macron a tenu compte justement des conseils politiques.
Est-ce que c'est pas des... J'allais dire les emmerdes volent en escadrille, pardon hein, de cette vilaine expression.
Oui. Formule chiracienne.
Mais j'aime bien l'expression au demeurant. Bon, il y a l'épisode du Pont-Moretti, il y a l'épisode d'Armanin, avec Bayrou électron libre, est-ce qu'il n'y aura pas des épisodes similaires?
Il y a des grenades découpillées dans la...
On en fera notre miel ici, justement. Oui,
oui. Mais alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que M. Dupont-Moretti avait vraiment voulu faire venir à son cabinet deux juges qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire Renaud Van Ruynbeck, qui a décliné l'invitation, et aussi Mme Bilger, Charlotte Bilger, qui, après avoir hésité, a accepté. Mais c'est elle qui avait mis en examen François Bayrou. C'est elle qui avait mis en examen.
Elle est restée 2 jours.
Elle est restée 3 jours et elle est partie parce qu'il ne fallait pas vexer François Bayrou.
Bien.
Et donc, voilà.
Ça montre qu'il est quelqu'un.
Merci les amis
important.
Des Grandes Voix. Le débat des Grandes Voix, c'est tous les soirs dans Europe Soir à partir de 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h. Et juste après, on ouvre le Club des Idées, comme chaque soir. Peut-on se nourrir 100% français et surtout sans se ruiner? C'est le thème de notre grand débat ce soir. A tout de suite.